Le traitement conventionnel de la maladie thromboembolique veineuse, de la phlébite et de l'embolie pulmonaire, comme vous le savez, ça comprend deux familles de molécules, des anticoagulants parentéraux, héparine non fractionnée, héparine de bas poids moléculaire, fondaparinux, qui est relayé pardon, par un traitement par antivitaminique K que l'on surveille, comme vous le savez, sur l'INR. La durée de chevauchement est toujours au minimum de 5 jours. Et puis, une fois que l'INR est entre 2 et 3, eh bien, on peut arrêter le traitement parentéral et garder le traitement oral par antivitaminique K pendant une durée minimale qui n'est jamais inférieure à 3 mois. Et puis, on va décider, en fonction d'un certain nombre de paramètres, de poursuivre ou d'arrêter ce traitement anticoagulant. Alors, ce traitement, il marche extrêmement bien. Je vous montrerai les résultats dans la littérature, mais il a un certain nombre de désavantages. Le premier, c'est qu'il faut utiliser deux molécules, et donc le relais entre ces deux familles de molécules n'est pas toujours très facile. La deuxième chose, c'est que ce traitement, il nécessite une surveillance biologique continue par le dosage de l'INR. Alors, ce traitement, il marche bien dans les méta-analyses qui ont comparé l'héparine non fractionnée et l'héparine de bas poids moléculaire. Vous voyez que le taux d'échec en termes de récidive thromboembolique est extrêmement faible, de l'ordre de 3%, et que pour les décès, c'est également très faible. Dans l'étude qui évaluait l'efficacité du fondaparinux, comparativement à l'héparine non fractionnée chez des malades avec une embolie pulmonaire, eh bien, vous voyez que là aussi, le taux d'échec de ce traitement à 3 mois était globalement similaire et en tout cas non inférieur à celui observé avec l'héparine non fractionnée, que la tolérance du traitement était là aussi très bonne, 2% d'hémorragie, et que la mortalité n'était pas différente. Donc ce traitement, il marche très bien, mais il a des limitations. Ces limitations sont liées aux propriétés des antivitaminiques K. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit précédemment, la nécessité d'utiliser deux familles de molécules, des anticoagulants immédiatement actifs relayés par les antivitaminiques K. Deuxièmement, ces molécules, les antivitaminiques K, possèdent une très grande variabilité inter- et intra-individuelle, ce qui nécessite d'ajuster sur l'INR la dose du traitement, que l'index thérapeutique est très étroit. Quand on est en dessous de 2 sur l'INR, on peut thromboser. Quand on est au-dessus de 3 sur l'INR, on peut saigner. Et qu'il existe de nombreuses interactions, à la fois médicamenteuses et avec l'alimentation, qui nécessitent des précautions d'emploi et, encore une fois, la surveillance de l'INR. Alors, l'utilisation en pratique quotidienne de ces familles de molécules sont possiblement problématiques. Je vous ai mis ici en pratique courante de ville en France les résultats obtenus dans les laboratoires qui effectuent le dosage de l'INR. Et vous voyez que le pourcentage de malades qui étaient dans la zone thérapeutique entre 2 et 3, ça ne dépassait pas 40%. Donc moins d'un malade sur deux a un INR qui est correctement dosé dans la zone thérapeutique en France, dans la pratique quotidienne. Un quart sont sous-dosés et près d'un tiers sont surdosés. Donc c'est finalement quand même assez difficile. Le deuxième écueil, c'est la connaissance du malade, de son traitement et l'éducation du patient avec l'utilisation de cette famille de molécules. Et là aussi, les choses sont assez catastrophiques, puisque vous voyez qu'un seul, à peu près un tiers, connaît la zone thérapeutique de l'INR. Que l'utilisation d'une carte d'anticoagulant, du carnet, sont quand même pas très bien connues, que les risques de surdosage sont relativement mieux connus et que les associations des conseillers sont finalement pas très bien connues en dehors de l'aspirine. Donc, pour faire simple, le traitement conventionnel, une héparine ou le fondaparinux relayé par les AVK, ça marche bien, mais c'est quand même un peu difficile à mettre en pratique. Alors, les recommandations de la Société européenne de cardiologie recommandent évidemment, avec un fort niveau de preuve, l'utilisation de ce traitement, parce qu'il repose sur des données solides avec beaucoup de patients inclus, et donc recommande ce schéma thérapeutique conventionnel. Je vous rappelle que les héparines de bas poids moléculaire sont contre-indiquées lorsqu'il existe une insuffisance rénale, et que dans cette situation-là, l'héparine non fractionnée reste le traitement de référence, et que, deuxièmement, le relais par les antivitaminiques K, il n'est pas utile de le faire lorsque les patients présentent une embolie pulmonaire ou une thrombose veineuse profonde dans un contexte de cancer. Dans cette situation particulière, les héparines de bas poids moléculaire sont plus efficaces et mieux tolérées que le traitement par antivitaminique K. Alors, dans ce contexte-là, les anticoagulants oraux directs ont été développés. Ce sont une famille de molécules qui ont un mécanisme d'action tout à fait original et intéressant, puisque contrairement aux anticoagulants dont on vient de parler, les héparines ou les antivitaminiques K, ces molécules vont inhiber de façon sélective et réversible, un seul facteur de la coagulation. On va disposer de molécules qui vont bloquer le facteur 10A, le facteur 10 activé. Vous les reconnaissez par ces molécules avec la terminaison xaban, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, betrixaban. Et puis, on a également des molécules qui vont bloquer la thrombine. Ce sont les antithrombines. Et on n'a pour l'instant qu'une seule molécule à notre disposition, qui est le dabigatran. Alors, ces molécules, elles ont un certain nombre de propriétés communes qui les distinguent franchement des antivitaminiques K. Tout d'abord, ce sont des molécules qui ont un pic d'action qui est très rapide. C'est comme une héparine. Vous prenez un comprimé de l'un de ces médicaments et dans les 2 à 3 heures qui suivent, vous êtes anticoagulé efficacement. Donc ça, c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est que ce sont des molécules qui ont une demi-vie qui est relativement longue, avec une demi-vie qui est, vous voyez, aux alentours de 15 heures, mais beaucoup moins longue que la demi-vie de la warfarine. Et donc ça, c'est intéressant, parce que ça permet une utilisation quotidienne et ça n'est pas un effet anticoagulant retardé. C'est disponible par voie orale c'est la même dose, c'est le même dosage, sans nécessité de surveillance biologique. Et quand on fait le parallèle avec les AVK, on a compris les avantages potentiels de ces familles de molécules. Ces molécules, elles ont été évaluées dans la littérature, dans des grands essais. Ces essais ont un certain nombre de particularités communes. Tout d'abord, ce sont des essais randomisés de non-infériorité, c'est-à-dire qu'on veut démontrer que la molécule à l'étude est au moins aussi efficace que le traitement comparateur. Donc, on ne veut pas démontrer que ça fait mieux, on veut simplement démontrer que c'est au moins aussi efficace. Il y avait des essais qui étaient en ouvert, donc l'investigateur et ou le patient connaissaient le type de molécule qu'il prenait, ou bien en double aveugle, ce qui est problématique, un peu plus compliqué à mettre en œuvre, parce que les INR, il faut fabriquer dans l'étude de faux INR pour masquer le placebo d'AVK. Et ces molécules ont été évaluées selon deux stratégies. La première stratégie était d'évaluer après un traitement initial parentéral, donc on prenait au moins 5 jours d'une héparine de bas poids moléculaire, et puis au moment du relais par les AVK, on donnait la molécule à l'étude. C'était le cas pour le dabigatran ou l'edoxaban. Donc dans cette stratégie, on veut simplement comparer et challenger les antivitaminiques K et uniquement cette classe de molécules. Une autre stratégie beaucoup plus intéressante était une stratégie de traitement unique, où là, cette fois-ci, on démarre tout de suite, d'entrée de jeu, le traitement évalué, le nouvel anticoagulant, et donc on veut challenger à la fois les héparines et les antivitaminiques K. Et dans cette situation-là, il y a une petite particularité, on utilise une dose un peu plus forte à la phase toute initiale pour avoir une efficacité plus importante. Le comparateur est toujours le même, donc le traitement conventionnel, l'héparine de bas poids moléculaire, au moins 5 jours relayés par les antivitaminiques K avec un INR entre 2 et 3. La durée du traitement était laissée à l'appréciation du clinicien, 3, 6 ou 12 mois. et les critères d'efficacité, c'est toujours les mêmes, la récidive de maladie thromboembolique veineuse, les critères de tolérance, c'était les saignements majeurs ou cliniquement significatifs. Ces essais, on en a maintenant un certain nombre qui ont inclus un nombre considérable de patients, 27 000 malades. Quand on regarde les populations incluses dans ces essais, vous voyez que l'âge moyen est assez jeune par rapport à la population de patients atteints de la maladie. Il y a en gros à peu près 10 ans de moins, donc c'est des malades beaucoup plus jeunes que la population réellement affectée par la maladie dans la vraie vie, donc 56 ans d'âge moyen. Vous voyez que moitié-moitié, moitié de phlébite, moitié phlébite plus embolie pulmonaire et une majorité de patients qui a une phlébite ou une embolie pulmonaire non provoquée, avec très peu de malades avec un cancer, et la majorité des malades étaient traités au moins 6 mois et près d'un quart 12 mois. Sur le critère principal d'efficacité, c'est des études de non-infériorité, ce critère est parfaitement rempli dans chacune des études, que ce soit avec le rivaroxaban, que ce soit avec l'apixaban, que ce soit avec le dabigatran ou avec l'edoxaban. Et vous voyez la courbe de Kaplan-Meier qui trace la survenue d'une récidive se chevauche entre les deux bras de traitement. Donc le critère de non-infériorité est à chaque fois rempli. Sur la tolérance en termes de complications hémorragiques, la première information, c'est que ces molécules, ces nouvelles molécules, ne font pas plus saigner que le traitement comparateur. Première information. Deuxième information, pour certains critères et pour certaines molécules, vous voyez comme c'est marqué en rouge, il existe même une diminution significative du taux de complications hémorragiques. Ici, les hémorragies majeures ou cliniquement significatives avec le dabigatran. Ici, les hémorragies majeures avec le rivaroxaban. Ici, avec l'apixaban, les deux critères étaient significativement diminués. Et avec l'edoxaban, c'était les saignements cliniquement significatifs qui étaient significativement diminués. Donc vous voyez que dans ces populations de malades, quand même plus jeunes que la population générale, on a une réduction du risque de complications hémorragiques sous ces nouveaux traitements. Alors ces essais ont été méta-analysés, comme on dit. Et quand on poule l'ensemble des études, vous voyez que le critère de non-infériorité est bien rempli, ce qui n'est pas très étonnant. Beaucoup plus intéressant, quand on poule l'ensemble de ces résultats sur les complications hémorragiques majeures, ce qui est tout à fait intéressant de remarquer, c'est qu'on a une diminution du taux de complications hémorragiques majeures quand on combine l'ensemble de ces essais. Et quand on regarde le type d'hémorragie qui est significativement réduit, ce qui est là aussi très intéressant, c'est qu'on a une diminution significative du taux de complications hémorragiques intracérébrales, ce qui est un événement évidemment extrêmement grave, et une réduction aussi significative des hémorragies mortelles dans ces essais. Quand on regarde ensuite les sous-populations de patients et on essaye de voir est-ce que l'efficacité est maintenue dans les différents sous-groupes, quel que soit le type d'événement, il n'y a pas de différence, quel que soit le poids non plus. Ce qui est intéressant, c'est que, notamment chez les patients âgés, sur l'efficacité, on semble avoir une efficacité supérieure aux AVK qui est démontrée lorsque l'on combine ces essais, et en termes de complications, et notamment de complications hémorragiques, là aussi, chez les patients plus âgés, il semble y avoir une réduction significative du taux de complications hémorragiques. Donc, les recommandations de la Société européenne de cardiologie recommandent, avec un fort niveau de preuve, l'utilisation de ces molécules comme alternative au traitement conventionnel. Donc, ça n'a pas vocation à remplacer le traitement conventionnel, c'est simplement une alternative possible. Il faut se rappeler que ces molécules ont une élimination en partie rénale, qui les rend contre-indiquées lorsqu'il existe une insuffisance rénale. Qu'est-ce qu'on appelle une insuffisance rénale dans ce contexte-là? C'est une clairance de la créatinine inférieure à 30 ml minute, selon le calcul de la formule de Cockcroft-Ego, et exclusivement ce calcul-là. Donc dans cette situation-là, il ne faut pas utiliser ces molécules, et dans un contexte de cancer, non pas parce que ça n'est pas efficace, c'est parce qu'on n'a pas de données. Alors, quand on veut utiliser ces familles de molécules, il faut savoir que dans un certain nombre de cas, ces molécules ne sont pas indiquées ou voire même contre-indiquées. C'est le cas notamment lorsqu'il existe une hépatopathie sévère, que ce soit une cirrhose ou qu'il y ait une élévation isolée des transaminases supérieure à 3 fois la normale. En cas de grossesse ou d'allaitement, ces molécules sont contre-indiquées. En cas d'embolie pulmonaire grave, compliquée d'état de choc, il n'y a aucune donnée qui a évalué l'efficacité et la tolérance de ces molécules, donc il ne faut pas les utiliser. Je vous rappelle que dans cette situation-là, c'est l'héparine non fractionnée et la thrombolyse qui sont recommandées avec un fort niveau de preuve dans les guidelines de l'ESC. Que la thrombose superficielle, la thrombose veineuse superficielle des membres inférieurs n'est pas une indication à un traitement curatif et encore moins à un traitement anticoagulant de cette nature, et qu'il faut se méfier, il y a moins d'interactions médicamenteuses qu'avec les AVK, mais il existe un certain nombre de contre-indications et d'interactions médicamenteuses. C'est notamment les inhibiteurs du cytochrome P453A4, donc toutes les antiprotéases ou le kétoconazole. Dans cette situation-là, ces molécules sont contre-indiquées. Ou bien les inducteurs du cytochrome 3A4, que ce soit par la rifampicine, que ce soit par la carbamazépine ou la phénytoïne. Dans ces situations-là, il faut faire attention et ne pas utiliser ces molécules. Alors, le deuxième axe de recherche de ces molécules, ça a été de regarder en prophylaxie secondaire de la maladie thromboembolique veineuse. Vous avez un épisode de phlébite ou d'embolie pulmonaire. On traite les patients pendant une certaine durée. Et puis, au-delà de cette durée, la question, c'est est-ce qu'on arrête le traitement anticoagulant ou au contraire, est-ce qu'on poursuit ce traitement anticoagulant? Le risque, c'est évidemment la récidive thromboembolique. Et donc, les essais ont évalué l'efficacité et la tolérance de ces molécules en prophylaxie secondaire, en termes de récidive thromboembolique et en termes de tolérance sur les saignements. Donc, on a à notre disposition un certain nombre d'essais thérapeutiques qui ont évalué soit le dabigatran versus placebo ou versus la warfarine. Quand c'était versus placebo, c'était un essai de supériorité. Lorsque c'était versus warfarine, c'était un essai de non-infériorité. Ou bien des essais contre placebo, évaluant le rivaroxaban ou l'apixaban. Donc, si on regarde en termes d'efficacité sur les récidives thromboemboliques, eh bien, vous voyez que le message est assez clair quand on regarde ces deux courbes. Tant qu'on donne un traitement anticoagulant, on met le patient à l'abri d'une récidive. Ce n'est pas très étonnant, comparativement au placebo. Et on réduit ce risque de survenue d'une récidive de l'ordre de 80 à 90%. Donc c'est une réduction très importante et évidemment significative du taux de complication, du taux de récidive. Dans l'essai qui a évalué la pixaban, cette étude était intéressante et se distinguait des autres parce qu'elle évaluait deux doses. Une dose, la pleine dose, qui est recommandée, 5 mg matin et soir, par rapport à une autre dose, une demi-dose, 2,5 mg matin et soir. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça met en exergue le principe qu'il faut peut-être traiter fort au tout début, et puis peut-être qu'une fois qu'on est à distance de l'épisode aigu, peut-être qu'un traitement d'entretien à plus faible dose serait intéressant. Et donc là, cette étude, elle vous démontre que finalement, comparativement au placebo, vous voyez que la courbe de récidive est assez importante, hein, 8,8% de récidive cumulée, eh bien, que l'on prenne du 2,5 mg, donc la demi-dose ou la pleine dose, eh bien, vous voyez que le taux de complication, le taux de récidive, pardon, est tout à fait comparable. Donc, de diminuer la dose ne réduit pas l'efficacité de la molécule. En termes de complications hémorragiques, eh bien, sur les hémorragies majeures ou cliniquement significatives, eh bien, là aussi, ce n'est pas très surprenant. Tant qu'on donne un traitement anticoagulant, le taux de complications hémorragiques est plus important que sous placebo. Et donc, dans l'étude Einstein, on avait une augmentation significative du taux de complications hémorragiques. Dans l'étude avec l'apixaban, eh bien, là encore, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que finalement, la demi-dose diminuait le taux de complications hémorragiques comparativement à la pleine dose. Toutefois, on est un petit peu surpris du taux de complications hémorragiques chez des malades qui prenaient uniquement un placebo, 2,7%, c'est un petit peu trop élevé. Quand on regarde, par exemple, dans l'essai dans le rivaroxaban, c'était seulement 1,2%. Donc, ces résultats sont peut-être à interpréter avec précaution. Donc, quoi qu'il en soit, la Société européenne de cardiologie recommande, avec un niveau de preuve qui n'est pas très élevé, que l'on peut utiliser comme alternative aux antivitaminica ces anticoagulants dans une phase d'extension, que ce soit le rivaroxaban à la dose de 20 mg. On est actuellement, il y a un essai qui évalue une demi-dose, comme avec la apixaban, mais en attendant les résultats de cet essai qui est en cours, c'est la dose de 20 mg qui est recommandée, ou le dabigatran à la dose de 150 mg deux fois par jour, ou 110 mg dans cette situation-là. Et la apixaban, est intéressant parce qu'à demi-dose, on a une efficacité comparable et un petit peu moins de complications hémorragiques. Donc en conclusion, ces anticoagulants oraux directs sont une famille de molécules intéressantes, d'abord parce qu'elles démontrent qu'elles sont au moins aussi efficaces que le traitement comparateur, que c'est une simplification du schéma thérapeutique avec un seul anticoagulant administrable dès le diagnostic et pendant toute la durée du traitement, sans nécessité de relais par les antivitaminiques K. Et donc ça, c'est intéressant. Si on utilise cette stratégie, il ne faut pas oublier de diminuer la dose lorsqu'on a passé la phase aiguë. Donc pour le rivaroxaban, c'est à J21, au 21e jour. Et lorsque, si on utilise l'apixaban, c'est au 7e jour. Ensuite, les résultats des essais sont extrêmement intéressants, mais je vous ai dit qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la population des malades qui ont été inclus dans ces essais, c'est-à-dire des malades plus jeunes que la population réellement affectée de la maladie en pratique quotidienne. Et donc, pour cela, on a besoin de confirmer ces résultats dans la vraie vie, comme on dit, chez des malades beaucoup moins sélectionnés. Et ça, on a pour l'instant des données qui sont en attente. Que ces molécules sont contre-indiquées lorsqu'il existe une insuffisance rénale sévère, avec une clairance de la créatinine calculée selon Cockcroft, que ça simplifie ce schéma thérapeutique, et donc finalement, on va avoir un traitement beaucoup plus facile à administrer, mais cette simplification du schéma thérapeutique ne doit pas rendre moins rigoureuse la stratégie diagnostique. Il est hors de question de donner ce genre de traitement sans qu'on ait une confirmation objective du diagnostic d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse profonde. Et donc, il est nécessaire de ne traiter des malades chez qui on est certain qu'ils sont porteurs de la maladie. Et ce n'est pas parce que c'est plus simple qu'il faut faire plus souvent un traitement anticoagulant, même rigueur diagnostique. Et puis, la deuxième chose, c'est que cette simplification, elle va forcément favoriser la prise en charge potentiellement ambulatoire de ces malades. Ces malades sont souvent gardés à l'hôpital parce qu'il y a le relais par les antivitaminiques K. Clairement, en s'affranchissant de la nécessité de faire un relais, on va simplifier ce schéma thérapeutique et donc potentiellement favoriser le traitement ambulatoire, à condition, là encore, que ces malades soient bien suivis une fois qu'ils sont passés dans les services des urgences ou en consultation. Ces malades nécessitent d'être suivis pour vérifier la compliance au traitement, la tolérance au traitement, l'efficacité au traitement, et surtout, à un moment donné, il va falloir se poser la question d'arrêter le traitement anticoagulant, et ça, il est nécessaire de garder ces patients en consultation afin d'évaluer tous ces paramètres-là. Je vous remercie.